RDC, Radiodiffusion Charentaise. Bienvenue pour Un moment avec. Salut, c'est Steph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur RDC, Radiodiffusion Charentaise, 93.4 et 92.5. Ou sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Salut, c'est Steph pour Un moment avec, l'émission qui parle de vous, l'émission qui parle de vous en musique, l'émission qui parle de vous en musique et en chanson. C'est sur RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4 et 92.5, ou sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Un moment avec. Salut, c'est Steph. Aujourd'hui, Un moment avec, c'est avec Mathieu Blujon. Mathieu Blujon, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de partager un moment avec nous. Auditrices, auditeurs, bonjour. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Merci à celles et ceux qui découvrent aujourd'hui l'émission Un moment avec. C'est la rentrée sur RDC 93.4 et 92.5 pour la région de Saintes. Et cette saison encore, nous allons nous retrouver pour passer un bon moment avec un invité ou une invitée qui accepte une fois par mois de nous dévoiler son parcours de vie à travers des chansons. Nous nous retrouvons pour passer un bon moment. Bonjour Jean-Marc, merci aussi à toi de mettre ton savoir-faire au service de la meilleure écoute des auditrices et des auditeurs. Merci encore de ton aide précieuse à l'animateur que je suis. Auditrice, auditeur, Mathieu Blujon est donc l'invité de cette émission du jeudi 4 septembre 2025 et nous allons évidemment passer un bon moment avec lui tout au long de cette première émission de la série Un moment avec, diffusée sur RDC cette saison. 93.4 et 92.5 sont les deux fréquences que vous connaissez par cœur, évidemment. Savez-vous, Mathieu, que quand on est convié à l'émission Un moment avec, on est soumis à la question dès le début de l'émission, ou plutôt à la question, j'exagère, soumis à la chanson, vous savez ça. Alors, voici donc la question, Mathieu Blujon, pour que vous y répondiez en chanson. Quelle est pour vous la chanson qu'on fredonne, celle que vous allez fredonner pour nous, celle qui peut souvent vous tenir compagnie, oserais-je dire?
Alors, j'ai choisi « Mon enfance » de Barbara. Voilà, j'adore Barbara et les textes de Barbara sont tellement beaux que je me suis dit pourquoi pas mon enfance de Barbara.
C'est la musique, mais c'est la musique des mots aussi.
La musique des mots, la musique des textes, la musique de l'émotion, c'est vraiment une artiste qui me touche énormément depuis que je suis tout petit.
Alors c'est Barbara, mais c'est Mathieu d'abord.
J'ai eu tort, je suis revenu dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le couteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et je retrouvais comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas.
Merci beaucoup Mathieu et bravo. Je crois que ce qu'on vient d'entendre montre que vous avez ce que je vais appeler une voix travaillée, non? On en reparlera plus tard, mais je crois que la chanson, le chant en général, c'est quelque chose qui ne vous est pas tout à fait étranger. Alors pourquoi ça, c'est la chanson qu'on fredonne pour vous? Pourquoi ce choix?
Ben, ce choix parce que Barbara, c'est mes parents, Barbara, c'est mon frère aîné, ma sœur, c'est les vacances, c'est les cassettes audio dans la Renault Nevada, et c'est des textes.
Les départs en vacances.
Tout à fait.
Dans la Renault avec la cassette qui parle parfois s'enrouler dans le lecteur, c'est arrivé forcément.
Pas grave, on avait les crayons de papier pour les remettre.
Alors l'histoire de cette chanson, c'est finalement à l'occasion d'une tournée qui passe par Grenoble. Barbara fait un détour par Saint-Marcellin. Pourquoi par Saint-Marcellin? C'est une petite ville près de Grenoble. C'est dans cette petite ville de l'Isère donc, où enfant elle était restée cachée pendant 2 ans durant l'occupation nazie. Elle était restée cachée avec sa famille. Après avoir séjourné dans un centre dans le centre-ville de cette ville de Saint-Marcellin, la famille s'installe dans la campagne, dans une maisonnette mise à leur disposition. Et c'est ce court passage qui motivera la création de cette chanson éditée sur l'album Le Soleil Noir. Le fait qu'elle ait voulu revoir une des maisons de son enfance, même si c'était pas pour des souvenirs, on va dire, très très agréables. En tout cas, c'était le moyen d'échapper au pire. Plus tard, dans ses mémoires inachevées, qui s'intitule « Il était un piano noir », Barbara reconnaîtra ensuite que « Mon enfance », c'est la seule de ses chansons dans laquelle elle formule des regrets, alors que d'autres de ses créations expriment généralement de la nostalgie plutôt, et elle tient à faire la différence entre les deux. La secrétaire de Barbara témoigne de ce passage à Saint-Marcellin, et voici ses mots. On devait approcher de Grenoble, dit-elle, où elle chantait. Elle a dit au chauffeur, mais est-ce que c'est le Saint-Marcellin que j'ai connu ? Allons-y. On a retrouvé la maison où elle avait vécu avec sa famille. Elle n'a rien dit. Elle a pleuré abondamment. Quelques jours après, elle a écrit la chanson « Mon enfance ». Alors, je vais citer deux reprises. Une qu'on n'attend pas, c'est peut-être celle qui est la plus étonnante, c'est celle de Sylvie Vartan, qui a repris cette chanson-là, et puis celle de Vincent Delerme. Et comme ces reprises sont éloignées, finalement, dans le temps, je vois une preuve que cette chanson de Barbara marque les générations, et c'est peut-être le propre ou une caractéristique des grandes chansons, de ne jamais mourir. Mathieu, vous êtes d'accord ?
Ah, totalement, et les sujets qu'elle évoque sont immortels.
Ah, merci Mathieu, merci de cette magnifique entrée en matière, et puis bravo pour votre interprétation. Tout va bien ?
Tout va très bien.
On continue ?
Ah ben, bien sûr, avec plaisir.
Alors auditrice, auditeur, je suis sûr que nous allons passer un bon moment avec Mathieu Bujon en cette journée du jeudi 4 septembre, en route pour la première émission Un moment avec sur RDC 93.4 et 92.5. Salut, c'est Steph, Un moment avec. Mathieu Bujon, une question comme ça, direct, tout go, qui êtes-vous ?
Oh là, vaste sujet.
Pas mal de temps.
Alors, je suis d'abord un picto-charentais pure souche. Mes racines sont vraiment implantées dans le Poitou. Je suis d'un petit village qui s'appelle Vivonne, dans la Vienne.
Et c'est voilà. Un petit peu avant Poitiers, quand on vient d'Angoulême, ça, c'est ça, hein ?
Exactement. Donc, j'habite désormais à Angoulins, à côté de la Rochelle.
Mais pardon, Jérémy, on dit Vivonne, même si... la première fois que je l'ai lu, j'ai lu Vivonne, évidemment.
Voilà, c'est de cette façon-là qu'on sait que vous n'êtes pas de Vivonne. Tout à fait, mais voilà, donc c'est vrai que j'ai mes racines ici, je me sens très très attaché à mes racines, et puis voilà, ensuite je suis haut fonctionnaire, et donc j'ai dû bouger dans ma carrière.
Alors haut fonctionnaire, excusez-moi, moi j'y connais pas grand chose, ça veut dire que vous êtes assis sur un siège haut ?
Tout à fait, un siège assez haut, et c'est la raison qui fait... Non, alors haut fonctionnaire, en fait j'ai fait ma carrière dans l'éducation, et dans l'éducation nationale...
Vous avez commencé comme prof ?
Exactement, comme professeur de PS. J'ai été ensuite directeur du sport scolaire.
EPS, éducation physique et sportive, pardon.
Tout à fait, enfin prof de sport. Ouais. Voilà, au collège de Jancet, dans le sud de Vienne. Ouais. Voilà, ensuite, je suis parti pour être directeur du sport scolaire de l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, au niveau d'abord du département de la Vienne, puis de la région.
Donc c'est quoi l'UNSS ? C'est une fédération ? C'est une association ? Regroupement ?
Oui, c'est une association nationale et une fédération qui est pratiquée dans tous les collèges et lycées publics de France, et qui pour moi est vraiment, si vous voulez, un service public avec un P majuscule, qui permet à des milliers d'enfants, en l'occurrence plus d'un million, de pratiquer le sport lorsqu'ils n'ont pas toujours accès au sport, notamment au milieu rural.
Donc c'est en complément des cours, c'est ça ?
Exactement, exactement. Et c'est grâce à l'engagement des professeurs de sport que tous ces enfants peuvent faire du sport. J'y étais très très attaché. Et puis à l'issue de cela, les hasards de la vie m'ont mené vers des fonctions un petit peu plus comment dire, stratégiques, politiques, comme directeur de cabinet de plusieurs recteurs
et administratifs
complètement.
Alors directeur de cabinet de recteur. Donc le recteur, c'est quelqu'un qui pilote une région pour l'éducation nationale, c'est ça ?
Précisément, exactement.
Ouais. C'est donc il y en a un par
académie, c'est-à-dire par ancienne région, voilà. Administrative.
Poitiers, par exemple, pour exactement. Nous, Limoges, La Rochelle, non, Bordeaux, pardon.
Exactement. Donc j'ai eu cette chance-là. C'était un autre une autre trajectoire. Ça m'a permis ensuite de devenir ce qu'on appelle inspecteur d'académie, maintenant directeur académique d'AZEN.
Donc là, c'est responsable sous l'autorité d'un recteur quelque part ?
D'un département. C'est-à-dire que le recteur est le chef, si vous voulez. Ouais. Si on prend l'exemple de Poitou-Charentes, hein, qui est notre vous avez 4 inspecteurs d'académie, un par département. C'est l'homologue du préfet.
D'accord.
Qui se charge que de l'éducation, des sujets d'éducation.
D'accord. Et pour le préfet, il y a le préfet de région. Et donc, pour le recteur, il y a le recteur de, le, pour le DAZN, comme on dit, il y a le recteur. Et il y a le recteur de région aussi, qui est à Bordeaux, qui pilote, qui coordonne, on va dire, différents rectorats.
Précisément.
Donc, on fait la rentrée avec quelqu'un, auditrice, auditeur, avec quelqu'un, c'est Mathieu Bujon, qui a été prof, donc il connaît bien les moments de rentrée. C'était quoi la rentrée pour vous? C'était un stress? C'était quelque chose que vous attendiez avec impatience?
Que ce soit en tant qu'élève ou que ce soit en tant que professionnel, la rentrée c'est toujours un moment quand même d'excitation. C'est un moment de nouveauté, de découverte, de nouveaux collègues, de nouveaux camarades, de mise en œuvre lorsqu'on est professionnel, de nouvelles directives qui peuvent parfois être assez stressantes ou à l'inverse très, très excitantes. C'est forcément un moment très particulier et plutôt agréable en ce qui me concerne.
À côté de votre profession, il y a plusieurs passions. Alors le sport, sûrement. Parce que quand on est prof de PS, il y a forcément une pratique. Plusieurs sports, vous avez...
Oui, alors je suis quand même spécialiste de kayak. C'était le sport de mon enfance. Mon père était président du petit club, puis mon oncle dans lequel j'étais. Donc le kayak, c'était un peu notre vie.
C'est un lien avec votre profession, parce que, allez, je vais oser, quand on est inspecteur, il faut savoir remonter le courant ou le descendre.
Oui, et puis par ailleurs, on rame beaucoup régulièrement, donc j'ai l'habitude de ramer. Et puis ensuite, effectivement, j'ai fait aussi beaucoup d'autres sports, dont l'équitation par exemple, le volley, et beaucoup plus récemment, grâce à mon fils, enfin à mes fils, tous les sports de mer, vu qu'on habite là-bas, et le surf, et surtout la planche à voile.
Il y en a un des deux qui a notamment un parcours national et international, c'est ça?
Oui, le plus petit est champion de France en titre, et effectivement, est sixième, a fait sixième au dernier championnat du monde.
Et son prénom, c'est
Lilian.
Lilian, alors on va le saluer à distance et le féliciter et lui dire que allez, il faut continuer, il n'y a que le premier pas qui coûte. Il reste tous les autres à parcourir. Et puis il y a le côté musical donc. On disait un petit peu, comment vous êtes tombé dans la musique, vous?
Mais écoutez, grâce à votre émission, parce que j'ai dû me replonger dans des souvenirs d'enfance, je me suis aperçu à quel point finalement la musique faisait partie de l'ADN de notre famille. J'avais des grands-parents, d'ailleurs ma grand-mère paternelle écoutait très souvent des disques, des 33 tours, de Nana Mouskouri, on s'en rend pas forcément
compte. 33 tours, rendez-vous compte.
Non, et c'est vrai que...
Je suis pas sûr que Lilian sache ce que c'est qu'un 33 tours.
Alors, probablement pas. Son grand frère, oui, parce que ça redevient un petit peu à la mode, hein, les disques vinyles.
Il y a un retour. Mais, rien ne se perd. Tout se crée et tout se transforme.
Non, et puis mon père faisait les balles lorsqu'il était jeune. Donc mon père a toujours eu des guitares, nous jouait beaucoup de guitares. Il a tenu avec ma mère à ce que ses trois enfants fassent de la musique. Donc mon frère du violon, moi du violoncelle, ma sœur du piano. Et c'est vrai que ça m'a énormément apporté. On met souvent en opposition à tort la culture et le sport. Pour moi, c'est deux choses extrêmement semblables.
Liées en tout cas, oui.
Liées dans ce que ça procure en émotion, par exemple. Et j'avoue que la musique a vraiment été constitutionnelle de ma vie, réellement. Peut-être autant, voire plus que le sport encore.
Et donc, auditrice, auditeur, vous voyez, Mathieu vient de faire un résumé de l'émission, parce que le principe de l'émission, c'est de tisser des liens entre le parcours de l'invité, bien sûr, et la musique à travers les chansons ou les airs instrumentaux. On verra ça tout au long de cette matinée du 4 septembre. Donc, à partir de ce que Mathieu dit, il s'agit pour lui de tout nous dire de lui, ou presque. Et on va commencer par des liens entre l'invité, Mathieu Bujon, pour aujourd'hui, et la musique. Et j'ai une question à vous poser, Mathieu. Quelle chanson pourrait être associée à votre profession ou à l'une de vos occupations du jour ou passé, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Alors plutôt pour une occupation, j'ai choisi Non Pion Dry, c'est un air des noces de Figaro, parce qu'une de mes occupations a été quand même de chanter de l'opéra. J'ai eu la chance, grâce à mon frère, d'intégrer le conservatoire de région de Poitiers à l'époque.
Et dans c'était la classe de chant?
Tout à fait. Et je suis entré à la classe de chant avec un morceau pour passer l'examen, et c'était celui-ci. Donc voilà.
On écoute?
Avec
un extrait, on ne pourra pas tout écouter, désolé, mais ça vaut le coup. Je crois que ce n'est pas une version dans laquelle vous interprétez, vous, mais bon.
Ah non, ça n'existe pas.
C'est maintenant. Non più andrei. Non più andrei,
parpadore amoroso, notte giore, notte in cuore, notte girando, delle belle pronto arrivo. sì, canoncino d'amor. Belle, belle, profonda e riposo, Narcisè, canoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero galante, quell'argoma con l'aria brillante, di quel vermiglio d'onesto color, di quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello e quell'argoma che l'aria.
Alors, il s'agit d'un extrait d'opéra. Auditrice, auditeur, je veux dire que c'est Ruggiero Raimondi qu'on a entendu, mais moi, en face de moi, j'ai eu Mathieu Bujon qui a chanté intérieurement toutes ces paroles en même temps. C'est une belle version, hein, celle de Raimondi, je trouve. C'est très parlant, tiens.
C'est très parlant et c'est aussi très cinématographique puisqu'il a interprété la version film de Don Juan.
Donc, c'est un air extrait de l'opéra Le Nozze di Figaro, Les Noces de Figaro, avec la musique de Mozart. C'est en italien au départ et c'est écrit par Da Ponte, le livret qui est basé sur une comédie de Beaumarchais, La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro. Et Figaro chante l'air qu'on vient d'entendre à Chérubin à la fin du premier acte. La musique de cet air est citée, c'est-à-dire reprise par Mozart lui-même, dans un arrangement pour instrument à vent, dans un deuxième acte de Don Juan aussi. Il s'emprunte lui-même. Bon, il est un peu flemmard, le musicien, pour se citer lui-même. Et c'est à ce moment-là, dans la scène dite du banquet, dans l'opéra Don Juan. Et quelques paroles, en tout cas la traduction française, que j'ai pu trouver. « Tu n'iras plus, gros papillon amoureux, tourbillonnant nuit et jour, troublant le sommeil de ces belles petits narcisses, Adonis d'amour. Tu n'auras plus ces belles plumes, ce chapeau léger et galant, cette perruque, cet air brillant, ce teint vermeil de demoiselle. Parmi les soldats, que diable, de grandes moustaches, un petit sac, fusil à l'épaule, sabre au flanc, col droit, nez franc, un gros casque ou un gros turban, beaucoup d'honneur, une maigre paix, et au lieu du fandango, une marche dans la boue. » Ah ben dis donc Mathieu, le devenir de Chérubin ne paraît pas des plus agréables, non? Alors pourquoi avoir choisi cet air?
Bah, écoutez, au-delà du sens même du morceau, je vous l'ai dit, c'est un morceau qui est très très chanté par les jeunes chanteurs d'opéra. Mozart est très régulièrement choisi parce
qu'il est toujours à la mode.
Et alors d'abord, il est toujours à la mode et puis en plus techniquement, ça reste des airs relativement faciles. J'ai bien dit relativement.
Oui, oui.
Facile à chanter.
Sur le papier en tout cas.
Sur le papier en
après,
tout cas.
Après, il faut les faire vivre, c'est autre chose.
Exactement. Bon, après, voilà, ça reste un opéra évidemment que j'adore, d'où ce choix.
Alors Mathieu, la musique, ça vous tient depuis toujours finalement, vous disiez, hein, grâce à votre environnement familial, frangin, parents, grands-parents. Quelle chanson pourrait évoquer votre enfance? Une chanson qui vous rappelle votre enfance et pourquoi, bien sûr.
Écoutez, une fois encore, quand je repense enfance, je pense à mes plus beaux souvenirs, c'est peut-être les vacances, une fois encore dans la voiture, parce que c'est là qu'on écoutait finalement beaucoup de musique, et sur cette même cassette, celle sur laquelle il y avait mon enfance, il y avait aussi la Bohème d'Aznavour, et entre autres, il y avait la cassette Aznavour, et c'est vrai que j'adore Aznavour, donc j'ai proposé la Bohème, qui est quand même une très très belle chanson de cet artiste.
Ouais, à l'image de Ménilmontant, de Charles Trenet, Charles Aznavour, dans cette chanson-là, il raconte des souvenirs nostalgiques de la vie de bohème d'un jeune artiste peintre du quartier parisien de Montmartre. Il s'agit d'un hymne à la jeunesse, non ? Inspiré de sa propre vie d'artiste, finalement. Et puis, quand il dit « Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître », Montmartre, en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire « On a 20 ans !» Et nous vivions de l'air du temps, on était jeunes, on était fous. Je vais ajouter, on était beaux, mais on est toujours beaux, au moins dans le cœur et dans l'esprit. À l'origine, cette chanson, elle devait être chantée par Guettari dans une opérette Monsieur Carnaval de Charles Aznavour, et ça devait être créé au Châtelet, et puis c'était un livret de Frédéric Dard, vous savez, celui qui est plus connu comme écrivain des aventures du commissaire San Antonio, que j'adore. Moi, mais Charles Aznavour, il a enregistré la chanson avant la générale de l'opérette, dites donc. Ça a provoqué une querelle avec Guettari, bien sûr. Et puis, leurs maisons de disques sont vraiment opposées pour des raisons artistiques, mais peut-être aussi perspectives financières. Toutefois, le succès des ventes de disques des deux interprètes, ça a favorisé leur réconciliation avec l'entremise de Frédéric Dard, paraît-il. Cette chanson, c'est un succès mondial, c'est l'une des plus emblématiques de la carrière d'Aznavour. Même seulement écoulée à quelques 200 000 exemplaires, c'est pas beaucoup finalement en France, elle sera adaptée en 5 langues, anglais, allemand, italien, l'espagnol, le portugais. On écoute le grand Charles ?
Avec plaisir.
Allez, la bohème, c'est maintenant.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. Café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire.
Mathieu, la bohème, ça me fait penser à autre chose, ça me fait penser à un opéra aussi quand même. Hein. Et je voudrais l'évoquer parce que vous dire que dans cette parenthèse que je vous fais maintenant, j'ai assisté avec un immense plaisir à une représentation l'an passé de cette merveille, la bohème, l'opéra, dans le cadre des soirées lyriques de Sang-Sé. Je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, on va pouvoir en parler tout à l'heure, bien sûr, mais je veux l'évoquer tout de suite parce que, pour dire qu'à chaque fois que j'entends cet opéra, je ne peux m'empêcher un sourire quand même, parce qu'il est question d'un vent qui souffle à Montmartre, et le vent est cité comme la Tramontane. Alors c'est étonnant parce que dans la mansarde insalubre que partagent les jeunes artistes, si on ressent la Tramontane, hein, je prends les paroles vraiment, c'est quand même que cette Tramontane, c'est un vent d'une puissance extraordinaire. En tout cas, le vent musical et artistique souffle chaque année à Sang-Sé. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans quelques instants. L'enfance, on vient d'en parler, après il y a l'adolescence, hein, c'est comme pour tout le monde. Quelle chanson pourrait illustrer un moment de votre adolescence et pourquoi toujours ?
C'était une des questions les plus difficiles que vous m'avez posées. Parce que l'adolescence, c'est tellement de choses à la fois. C'était le sport en fin d'après-midi, évidemment. Mais c'était aussi les soirées et avec les crises d'adolescence des trois enfants qu'avaient mes parents. Et en l'occurrence, celle aussi de mon frère qui s'était mis... vraiment qui s'est vu une passion pour l'opéra déclenchée, folle, et qui l'amenait à écouter de l'opéra à fond dans sa chambre, qui joue que c'était la mienne, tous les soirs.
Donc c'était à fond dans sa chambre, mais finalement dans la vôtre aussi.
La mienne, si vous voulez, était juste à côté, donc forcément j'ai été élevé à l'opéra, et je me rappelle d'une scène assez amusante. C'était que pour l'appeler à dîner, ma mère, à la fin, il ne pouvait pas l'entendre, vu qu'évidemment le son était trop fort, tapait avec sa savate sur l'escalier pour que ça résonne, et c'était les résonances dans cet escalier qui nous faisaient descendre pour manger. Et en l'occurrence, les deux airs qui étaient le plus diffusés à ce moment-là, c'était soit Vici d'Arte de Tosca, soit le Casta Diva, le fameux Casta Diva interprété par Callas. Et je crois que c'était tous les soirs Casta Diva. Vous me direz, il y a pire, mais ça a quand même marqué mon adolescence.
Alors lequel des deux vous avez choisi, Casta Diva?
Oui, exactement.
Alors c'est une version que j'ai choisie moi, donc c'est la version de Sandra Radwanowski sous la direction de Philippe Jordan. Et j'ai aussi une certaine admiration pour l'interprétation de Marina Rebecca. J'ai hésité entre les deux. Finalement, j'ai choisi la deuxième. Et puis ça me permet de faire un amical clin d'œil à Lauriane Nourry, inoubliable interprète de cet air, avec le superbe accompagnement pianistique de Sabrina Goulard à l'époque, et celui du bel ensemble choral Au cœur des quais de Tonnet-Charente, que je connais particulièrement bien. L'histoire, c'est un chef druide qui s'appelle Oroveso et qui réunit des druides et des guerriers dans un sanctuaire forestier sacré pour préparer la guerre contre les envahisseurs romains. Il y a parfois des liens entre la musique et l'opposition, hein. La musique, l'amour, la musique, la guerre. Sa fille, ce chef, c'est la grande prêtresse Norma. Elle est secrètement amoureuse du proconsul romain, c'est-à-dire d'un ennemi finalement qui commande l'armée des ennemis. Elle use de son rôle de prêtresse pour interpréter des signes divins et elle veut tenter d'empêcher la guerre. Elle le fait aussi avec une prière, en quelque sorte une invocation mystique à la paix. La prière est adressée à la déesse de la lune argentée, à laquelle Norma offre une branche de gui sacrée à titre d'offrande. Bon, Mathieu, ça va mal finir, ça, ou pas?
Alors, si vous connaissez un opéra qui termine bien, faites-moi signe.
Ouais, on va en écrire. Hein. Allez, on va en écrire. Hein. Il y a quand même, on peut le dire, hein, une chanson qui s'inspire de ça. C'est celle de Mireille Mathieu, évidemment. C'est Mille Colombes.
Exactement.
J'avoue apprécier notamment les paroles suivantes de cette chanson, que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Et je vais dire que c'est vraiment d'actualité, hein, ce message d'espoir. Il se dit que Norma, l'opéra, est basé sur un passage de la vie de Bellini, lui qui tomba éperdument amoureux d'une de ses élèves, Maddalena Fumaroli. Mais celle-ci était fiancée avec le secrétaire du roi de Naples et elle n'était pas de la même catégorie sociale que le musicien. Il n'était pas pensable pour la famille de la jeune fille qu'un joueur de clavecin, entre guillemets, puisse l'épouser. Parce que même talentueux, il n'était pas de la même classe. Avec le succès quand même, les choses se sont, paraît-il, un peu arrangées. Mathieu, musique et culture, musique et guerre, musique et amour, que ne ferait-on pas par amour? Parce que finalement, qu'est-ce qui est plus important que l'amour? Moi, j'aurais envie de répondre, rien. On est tout, Castadiva. Casta Diva, c'est maintenant, et c'est Marina Rebecca. L'enfance, l'adolescence, devinez ce que c'est après, ben c'est la période adulte. Y a-t-il une chanson qui pourrait illustrer un moment de votre vie d'adulte, Mathieu?
Bah écoutez, je rebondis avec ce que vous venez de dire sur l'amour. Ma vie d'adulte, c'était une rencontre, la rencontre de la femme de ma vie, qui, comme par hasard, était chanteuse d'opéra. Et en fait, ma femme était soprano lyrique, a interprété beaucoup de choses sur...
Était, donc ça veut dire qu'elle ne l'est plus?
Non, elle a fait une bonne quinzaine d'années de carrière professionnelle de soliste en France et dans le monde entier. Et elle a décidé ensuite de changer de voie pour rejoindre elle aussi sa vocation première qui était celle de l'éducation, et en l'occurrence l'éducation
J'aime
artistique.
J'aime beaucoup le « elle aussi
». Et en fait, il se trouve que voilà, dans tout ce qu'a interprété ma femme, elle chantait une mélodie de Poulenc que j'adore, qui s'appelle Les Chemins de l'amour. Peut-être que certains de vos auditeurs la connaissent ou pas, mais en tout cas, ça vaut le coup de la découvrir. Et voilà, la mélodie est sublime et j'adorerais quand elle me le chantait et j'adore toujours qu'elle me le chante. Et parfois, je lui demande.
Sarah, je pense que vous nous entendez ou que vous nous entendrez par rapport au podcast, je ne sais pas. Vous avez entendu, il y a un appel qui est lancé là. Chantez à nouveau, s'il vous plaît, les chemins de l'amour, ceux que vous avez empruntés finalement avec Mathieu, c'est ça?
Exactement.
Allez, on écoute ces chemins de l'amour.
Avec plaisir.
C'est maintenant et c'est la version de Fatma Saïd que j'ai retenue avec le talentueux Heinz Elseskers au piano.
Les chemins qui vont à la mer ont gardé de notre passé.
Alors cette chanson, elle est dédiée à la comédienne et chanteuse Yvonne Printemps au départ. Les paroles sont de Jean Anouilh et elle a connu vraiment un réel succès interprété par Yvonne Printemps, entre autres. Et puis on a depuis d'autres versions, celle qu'on vient d'écouter, mais aussi celle de Jessie Norman, de Véronique Jans et puis de Sabine Deville. J'avoue que j'ai une petite préférence pour la dernière. Quelques paroles. Chemin, avec un S, chemin, chemin de mon amour, je vous cherche toujours, chemin perdu, vous n'êtes plus, et vos échos sont sourds, chemin du désespoir, chemin du souvenir, chemin du premier jour, divin chemin d'amour. Mathieu, je pense que ces paroles, toutes belles soient-elles, ne collent pas tout à fait avec les sentiments que vous éprouvez pour Sarah, ou qu'elle éprouve pour vous, puisque c'est le prénom de votre épouse, votre Sarah, si je peux dire, votre jolie Sarah, oserais-je ajouter, en tout bien, tout honneur. Comme quoi la compréhension de paroles, ça peut s'inscrire en creux, parce que chemin de mon amour, je vous cherche toujours, moi je pense que peut-être vous avez trouvé, vous, les chemins, comme quoi la compréhension des paroles, ça peut s'inscrire en creux par rapport à leur sens premier, en disant que finalement comprenne qui pourra et qui voudra. C'était le petit coucou, le premier, tiens, je vais dire. Ah, Sarah. Quel est l'interprète parmi tous ceux que vous avez croisés, entendus, vus, connus, reconnus, que vous retenez, celui ou celle que vous préférez, Mathieu?
Alors là encore, c'était une question très complexe, mais mon choix s'est porté vers Roxana Bribane, que pour le coup, je pense, peu d'auditeurs parmi vous connaîtront, mais Roxana Bribane, c'est une soprano roumaine qui est venue interpréter, justement, dans le cadre du Festival des Soirées Lyriques de Sensey, le Trouvert de Verdi. Et elle a fait une... Elle chantait ça avec une émotion, une musicalité. Elle avait des pianissimi qui étaient exceptionnels, peut-être même historiques, qui étaient absolument bouleversants. Elle, c'était quelqu'un d'extrêmement fragile, qui transmettait cette fragilité dans ses interprétations. Et j'allais dire que de façon assez dramatique, cette sensibilité n'a pas la conduite à mettre fin à ses jours. En 2010, 3 ans après avoir interprété Le Trouvert à Sensey, c'était quelque chose d'extrêmement violent et difficile à comprendre. Mais en tout cas, je tenais aussi à lui faire un peu cet hommage par le biais de cette émission.
Vous évoquez la fragilité de l'artiste. C'est fréquent? Un artiste, c'est quelqu'un qui est fragile?
Je pense même que c'est indispensable. Je pense qu'on a du mal à interpréter des émotions si on ne les ressent pas un peu plus fortement, peut-être, que tout un chacun. Les artistes qui nous touchent, qui nous bouleversent, j'ai évoqué tout à l'heure Barbara, par exemple, c'était quelqu'un qui était immensément en souffrance, et on le ressent. Ouais. Et c'est ce ressenti qu'on nous transmet.
Il y a une citation de Jacques Brel que j'aime beaucoup, « L'artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres ».
C'est superbe.
Je trouve que c'est très 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 bien dit et très juste dans beaucoup de cas. L'interprète, vous avez dit, donc c'est Roxana Bribane, mais quelle chanson vous retenez ou quel air? C'est un extrait du Trouvert, c'est ça?
Exactement, D'amour sous la lie rosée, et vous verrez, c'est absolument sublime.
On écoute maintenant?
Avec plaisir.
Allez, c'est maintenant, c'est donc Roxana Bribane. Roxana, pardon. C'est extrait d'un opéra qui est un des piliers du répertoire, un des piliers des opéras en France et ailleurs, dans le monde entier. Il apparaît au 23e rang des opéras les plus représentés au monde. cet opéra de Le Trouvère de Verdi. Alors, une histoire, en résumé, c'est dans l'Espagne du Moyen-Âge, il y a une gitane, elle a enlevé le fils du comte de Luna pour venger sa mère, que le vieux comte avait envoyé au bûcher. Elle a élevé cet enfant comme son propre fils, sous un nom d'emprunt, et plus tard, il se fera passer pour un trouvère afin d'approcher Leonora, celle qu'il aime. Après maintes péripéties, et même si tout paraît s'arranger au mieux, dans un premier temps, Leonora décide de mourir en s'empoisonnant pour échapper à un mariage qu'elle ne souhaite pas. C'est alors que l'air est interprété. Brise d'amour fidèle, vers sa prison cruelle, emporte sur tes ailes roses les soupirs de mon cœur. Bon, Mathieu, c'est encore un truc pas très gai, ça, hein, que vous avez choisi ce matin. Vous faites exprès ou quoi? On garde le sourire quand même, et on va permettre à la musique de nous faire voyager. Quelle est la musique ou la chanson qui vous transporte, qui vous emporte ailleurs? Quelle musique, quelle chanson et quelle ailleurs, s'il vous plaît, Mathieu?
Alors l'ailleurs, sans aucune hésitation, pour le coup, c'est la Corse.
Alors c'est l'ailleurs par rapport au Picto Charentais, ça.
C'est l'ailleurs par rapport au Picto Charentais, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir il y a plus d'une vingtaine d'années la Corse. Je suis tombé amoureux, c'est pas très original hein, de tomber amoureux de la Corse, c'est tellement beau. Mais de ce lieu, d'ailleurs, on s'est marié avec mon épouse là-bas. Et c'est vrai que le répertoire corse, évidemment les chants polyphoniques, mais pas que... j'adore ça. Et lorsqu'on parle de polyphonie corse, évidemment Petru Ngulfuchi, ça reste la référence. Donc Corsica par exemple, qui est le tube, mais c'est l'ailleurs, c'est évident.
Et alors c'est l'ailleurs qui devient un second chez vous?
Oui, alors il se trouve que on y a été quasiment tous les étés, et puis professionnellement j'ai eu la chance de pouvoir être correspondant territorial au sein de l'inspection générale, puisque je suis...
C'est une répartition du territoire national?
Exactement, exactement.
Entre les personnes, et puis c'est pour établir des liens et développer des projets.
Précisément, exactement. Et j'ai eu la chance de suivre ce territoire pendant 3 ans, ce qui m'a permis de lier l'amour personnel que j'avais pour ce territoire avec ce lien professionnel, et c'est parfois très utile, je trouve.
Et un auditeur qui a écouté cette chanson-là et qui a écrit la chose suivante, vous me dites si vous êtes OK avec lui ou pas, Mathieu. Lorsqu'on tombe amoureux de la Corse, c'est pour toujours.
Ah oui, de façon certaine.
Puis il y a une auditrice qui a écouté la chanson dont on va avoir un extrait dans quelques secondes, qui dit « J'ai toujours la chair de poule et les larmes aux yeux quand j'écoute cette chanson ». Ça parle, ça?
Alors, oui.
Au Picto-Charentais corse que vous êtes?
Complètement. Et une fois encore, les voix corses, d'ailleurs à l'instar des voix lyriques, portent quelque chose en elles de très très viscéral, de très profond.
Ouais, c'est une vibration au sens physique du terme, hein, j'ai envie de dire. Exactement. Alors le titre, c'est « Corsica ». Et c'est Petru Ngulfuchi, et c'est maintenant. Alors ce chanteur, il est célébré pour sa voix puissante, sa voix qui porte, on vient de l'entendre, mais aussi pour sa capacité à raconter des histoires profondes et touchantes à travers ses chansons. C'est-à-dire qu'on a tout, on a l'interprétation, dans le fond et la forme, quoi. C'est ça?
Exactement.
C'est une richesse extraordinaire. Alors je vais essayer de dépeindre en quelques mots cette chanson, de la raconter, tiens, et puis vous me direz, Mathieu, si vous êtes d'accord ou pas, parce qu'il faut dire qu'elle occupe une place très particulière, très spéciale dans le répertoire de ce chanteur corse que vous avez retenu ce matin du 4 septembre sur RDC 93.4 et 92.5. Alors Corsica, c'est une ode à la beauté, à la richesse de la Corse. Ça part bien, ça, ça va?
Ça, c'est parfait.
Les paroles expriment un amour profond pour l'île, avec une présentation de ses paysages époustouflants, de sa culture riche, de son histoire complexe parfois. Cette chanson a touché le cœur de nombreux auditeurs partout dans le monde, et c'est sans doute encore le cas aujourd'hui. Ça va toujours?
Parfait.
Une des raisons, je crois, c'est que les paroles sont imprégnées de sentiments profonds et de réflexions poétiques sur la Corse. C'est vraiment la rencontre entre, je vais dire, le sens, la raison, et puis le rêve, l'ailleurs, l'au-delà, la beauté et la merveille des paysages et d'une culture. Ça va? J'ai bien? J'ai bon, monsieur l'inspecteur?
Tout à fait, monsieur l'inspecteur.
La musique, ça représente peut-être aussi... d'autres régions, et plus largement le pays, la France. Quelle est la musique ou quelle chanson qui pourrait représenter la France pour vous, Mathieu Blujon?
Alors, j'ai répondu à cette question « Lettre à France » de façon pas très originale, de Michel Polnareff, même si on peut avoir un regard différent sur l'interprétation de cette chanson. Mais pour moi, « Lettre à France », c'est la lettre que Polnareff écrit lorsqu'il s'en éloigne, paradoxalement, et qu'il en a le mal du pays. Et bon, par ailleurs, j'adore Michel Polnareff. Ça fait partie de mon enfance. Ça fait partie des disques que j'ai usés tellement je les ai écoutés.
Et enfin, ou de mon depuis la poupée qui fait non.
Depuis la poupée qui fait non. Depuis Marie-Lou. Depuis Love Me Please Love Me. Et depuis le bal de Laz.
C'est magnifique. Vraiment. Et je crois qu'il y a une richesse. On partage, je vais dire, l'admiration pour Michel Polnareff, Mathieu et moi, ça c'est très clair. Mais la richesse de Polnareff, c'est que c'est pas un style ou un genre. Il emprunte, il a une palette instrumentale et de composition assez large et assez phénoménale.
Et il vient du classique lui aussi, et ouais. Ça se sent. C'était un pianiste et vraiment ses mélodies sont superbes.
Alors, il y a un auditeur qui dit la chose suivante après avoir écouté Lettre à France. J'ai quitté la France à 25 ans, je me suis bien intégré dans mon nouveau pays. Pourtant, quand j'entends cette magnifique chanson, mon cœur est au bord des larmes. Mon pays me manque indéniablement, profondément. Donc ça veut dire que loin des yeux, on n'est pas forcément loin du cœur.
Bien sûr,
que ce soit pour
heureusement.
Une personne ou pour un pays. Un président français, un président de la République française, né en Charente, François Mitterrand, il a dit, il a écrit même, on est du pays de son enfance. Vous êtes d'accord, Mathieu?
À 100%. Comme je vous le disais au début, mes racines sont très très importantes pour moi.
Alors, Michel Polnareff, il est au fait de sa gloire. À un moment, il a une vie luxueuse dans un hôtel particulier à Neuilly. Et puis, il engage un homme de confiance qui, finalement, n'est pas autant de confiance qu'il y paraît. Et puis, de là, c'est la dégringolade jusqu'à l'exil. Et puis, là-bas, loin, aux USA, il se dit, tiens, quand même, la France... Ma France, j'ai mal à ma France, tiens. Et je vais écrire quelque chose par rapport à ça. Il arrive à faire un concert en Belgique, pas en France, parce que s'il a atterri en France, la police allait lui tomber dessus à l'époque, pour des raisons, on va dire, financières, relatives au fisc. Et puis, c'est un succès. Et plus tard, les affaires s'arrangeront, il pourra revenir et reparler de son répertoire, dont cette magnifique chanson. Je voudrais citer quelques reprises, celle de Julie Pietri, qu'on ne connaît peut-être pas beaucoup, puis celle de Yael Naïm. J'ajoute celle peut-être plus récente, mais très surprenante, de Malik Djoudi. Et bien sûr, comment ne pas évoquer celle de Pascal Fan, live fan de Pascal Obispo. Un titre en peu de mots, mais peu de mots qui disent tout sur l'admiration. On va aller jusque-là, d'Obispo pour Polnareff, pour l'amiral. Voici au moins un point commun entre Pascal Obispo, Mathieu Blujon et moi. Vive Polnareff, lettre à France. On écrit une lettre maintenant? Allez, c'est une lettre musicale et pianistique. Thank you.
pense à toi tout bas.
C'est ce silence, pourvu qu'il n'y ait jamais de silence musical. En tout cas, on dit que le silence qui suit du Mozart est encore du Mozart. Le silence qui suit du Polnareff est peut-être encore du Polnareff. Allez, la musique et l'histoire, on change de sujet. Quelle chanson, Mathieu, pour vous, pourrait illustrer un moment historique fort ?
Alors, vous allez dire que vraiment, je suis en dépression, mais en l'occurrence...
Mais on va vous soigner, on va vous soigner.
En l'occurrence, j'ai pensé à un des plus tristes moments de notre histoire contemporaine, en l'occurrence la déportation, et avec la liste de Schindler, dans lequel le morceau joué par le fabuleux Itzhak Perlman au violon est bouleversant. Et il se trouve que par ailleurs, j'ai entendu ce morceau joué lors d'une panthéonisation récente de grands résistants, et vraiment, pour le coup, j'étais en larmes. Et voilà,
c'était la panthéonisation de Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle et Germaine Tillon, c'est ça ?
Exactement.
Et puis j'en sais, pardon, il y avait quatre grandes figures, hein, finalement, de la résistance et la défense des valeurs républicaines, qui sont des choses très importantes, en tout cas, j'ose le dire. Beaucoup d'émotions, évidemment, et puis on peut laisser la parole encore à un auditeur qui dit la chose suivante, des frissons et la larme à l'œil en écoutant cette magnifique musique, tellement pleine d'émotions, cette musique. Ce film magnifique et cette musique poignante apportent une preuve que dans chaque être humain, il peut surgir une lueur d'humanité exacerbée. C'est une musique extraordinaire qui parle à l'âme de chaque être humain. Le violon est quand même un instrument très fort pour transmettre une émotion. Vous êtes d'accord avec ça ?
Ah, totalement.
C'est pas le seul, mais c'est vrai que... Avec
je mettrai le violoncelle en 1, le plus proche de la voix humaine, mais... Effectivement,
à travers ces quelques lignes de paroles d'auditeurs, moi je crois qu'on parle de la musique, on parle aussi de l'instrument et de l'instrumentiste. Mathieu, pouvons-nous dire qu'une belle musique résulte d'une rencontre, finalement, entre la personne qui l'a composée, qui l'a écrite, la personne qui l'interprète, et puis l'instrument avec lequel elle est jouée. C'est tout ça, l'interprétation ?
Exactement, c'est cette alchimie.
Et dans les instruments, j'inclus la voix, évidemment.
Ça va de soi. Vous avez des grands morceaux qui... Vous avez parlé tout à l'heure de diverses interprétations du titre précédent. Ça n'est plus la même chanson. Parfois, c'est assez troublant, parce que c'est la même musique, ça n'est plus la même chanson.
La même musique, les mêmes paroles, mais...
Exactement.
Mais alors, ça ne veut pas dire que c'est mieux ou c'est moins bien, parce qu'il y a aussi le choix de chacun dans l'interprétation, et on ne peut pas avoir Polnareff et ses clones, pour revenir à Lettre à France, ou la liste Schindler interprétée par... Et puis la même chose. Et tant mieux, sinon ça voudrait dire qu'on robotise l'art, et ça serait peut-être dommage. Après, évidemment, il y a des choix, on préfère telle ou telle œuvre, telle ou telle interprétation, et c'est aussi ce qui fait la richesse de l'art, c'est les diversités des propositions. On écoute la liste Schindler ?
Avec plaisir.
En tout cas, ce passage écrit par John Williams. Thank you. Les frissons, vous les avez eus, Mathieu, là ?
Ah oui, alors complètement. Et vous voyez, quand vous évoquez l'interprétation, la souffrance qui est celle de ce morceau, je me dis qu'Isaac Perlman, qui est quand même quelqu'un qui souffre d'un handicap et qui est considéré qui est un des plus grands violonistes du XXe siècle, je trouve que ce qu'il ressent lui-même probablement de ce qu'il est, c'est dans son interprétation, c'est tellement là, c'est incroyable.
Et je pense que les auditeurs, les auditrices, même s'ils ont entendu cette œuvre pour la xème fois, ils ont eu encore une fois l'émotion et les frissons.
On a un petit problème technique. Radio Diffusion Charentaise, un moment avec.
Alors c'est le moment du jeu. Savez-vous, Mathieu, que on joue dans cette émission, et le jeu, c'est la chanson cachée ou la chanson déguisée. Je vous ai demandé de me donner un titre, et puis le savoir-faire de Jean-Marc a fait que on a trois extraits sûrement, où pour une chanson déguisée, il faut reconnaître cette chanson-là. Le jeu est ouvert à toutes les auditrices, tous les auditeurs. Pour gagner, il suffit d'être le premier ou la première à donner le titre de la chanson cachée par notre Jean-Marc, déguisé subtilement par notre Jean-Marc. Pour ça, on téléphone au standard, c'est le 05 45 95 09 87, 05 45 95 09 87, et là, on donne la réponse, sa réponse, la bonne réponse. Attention, c'est le premier ou la première qui gagne. On ne peut gagner qu'une fois dans chaque émission. Je redonne le numéro, c'est le 05 45 95 09 87. La chanson cachée déguisée, on peut appeler à partir de maintenant. Voici le premier extrait déguisé. Je viens de voir les yeux de Mathieu Lujon, des trucs auditeurs, qui a dit finalement il ne savait plus du tout si la chanson qu'il avait proposée c'était la bonne. En tout cas, il n'a plus courage, la réponse.
Courage, courage à eux en tout cas.
05 45 95 09 87, on a le deuxième extrait. Peut-être que ça va être plus guidant, tiens. Ah, c'est un peu plus aidant. Hein. Vous n'avez pas le droit d'aider. Attention, Mathieu, vous n'avez pas le droit d'aider.
Bien sûr, beaucoup plus aidant, bien sûr.
Ouais. Attention, le troisième extrait, c'est maintenant. Alors voyez, on a trois interprétations d'une même chanson là finalement.
Tout à fait, je précise que je n'ai pas choisi le générique de Star Wars.
Non, mais peut-être que Jean-Marc a réussi, lui, à trouver celui qui avait interprété le générique pour lui faire chanter cet extrait déguisé. En tout cas, auditrice, auditeur, c'est le 05 45 95 09 87 que vous faites à partir de maintenant, vous précipitant sur vos téléphones pour donner le titre de la chanson cachée déguisée. Et nous, on revient au fil de l'émission de ce 4 septembre sur RDC 93.92.5 avec... la musique et les états d'esprit de l'invité, en lui demandant, Mathieu, qu'est-ce qui peut procurer de la joie en général ?
Ah, enfin une chanson. Alors là, vous allez être surpris, je l'imagine. Alors écoutez, j'ai choisi Bande Organisée, d'un très organisé qui est en fait un rassemblement de rappeurs marseillais. Ils sont 13 en l'occurrence, d'où leur nom. Alors je n'aime pas spécialement le rap, même si j'aime un peu toutes les musiques, mais j'ai un fils qui est fan de cette chanson et qui l'écoutait continuellement à chaque fois en allant dans des compétitions, parce que c'est une chanson qui est très très rythmée évidemment, et pour le mettre dans cette dynamique, il écoutait. Et en fait, c'est tellement lié à des excellents souvenirs pour moi que j'ai fait, voilà, je pense que c'est la chanson du plaisir coupable.
Ah, mais il est avoué, il faut avouer, à moitié pardonné, vous le savez bien. Ça veut dire qu'un artiste ou un sportif, il peut ou ils peuvent avoir des rituels.
Ah oui, bien sûr, enfin, alors pour le coup, c'est même fondamental. Je crois que beaucoup, beaucoup de sportifs de haut niveau écoutent très régulièrement les mêmes titres, les mêmes playlists, qui montent progressivement, régulièrement, sur la rythmique, pour faire monter le cœur. Et beaucoup d'études ont montré, d'ailleurs, que le cœur, notre fréquence cardiaque, suit les battements de la musique. Donc c'est très, très important.
Alors ici, c'est une chanson qui célèbre un lien fraternel et puis une unité entre les artistes. Ça dépeint un sentiment de fierté envers les racines et une détermination à surmonter l'adversité. La chanson, je veux oser dire, capture ou veut capturer l'essence de la culture urbaine de Marseille. Elle met en avant l'importance de rester unis et de se soutenir mutuellement face à des obstacles. C'est une collaboration qui invite à réfléchir sur les thèmes de l'unité, de la force, de la détermination. Les paroles explorent divers aspects de la vie à Marseille, en France plus largement, et de la camaraderie qui est associée à cette unité, en tout cas cette recherche d'unité malgré les défis et les aspirations des différents quartiers. C'est maintenant, allez, c'est très organisé tout ça. Voici Bande Organisée.
Oui, m'a gâté, RS4 Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Solide dans la bulle, sur le prato, shifter pro. Contresens, ma chérie t'as contresens. Putain où t'étais quand je mettais des 5 euros d'essence. Je veux nous faire la guerre, par un Dieu CB. Ça prend ton OG, ça prend ta gadji, ça prend ta CB. Le téléphone bip, que tu prends la KO. C'est Marseille bébé, ça m'est rincé DD. Wesh alors ma race, tranquille ou quoi. Crème dans la chop, je fais 0 à 100, 2 secondes 3. Guitarisé, ACDC, on se croit c'est sûr, t'es tétanisé.
J'ai passé la blague à Chiquita, 2 mois puis je l'ai déjà quitté. T'es un petit bâtard, je suis un abat, je suis un déjà quitté. Je suis le capitaine, je vais les décapiter. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. 1-3 au G-Sport, je passe la douane, les rapports.
Alors c'était encore un petit clin d'œil à la famille finalement, hein, quelque part. Ça veut dire que le papa, il suit son fiston.
Ah bah bien sûr, mes fistons, mes deux fistons. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez juste avant passé Mistral Gagnant, vous n'avez pas évoqué la meilleure interprétation qui existe de Mistral Gagnant, ce qui est celle de mon fils aîné au piano, bien évidemment.
Ça on le verra au moment de la réponse. Mais c'est pas grave, on va dire que les auditrices et les auditeurs n'ont rien entendu.
Non, ils n'ont rien entendu et je ne l'ai pas dit.
Bon, voilà. Donc vous avez gagné, Mathieu. La joie, c'est le contraire, c'est la tristesse. Alors, c'est peut-être, je sais pas, c'est plus facile ou plus difficile de trouver une chanson qui évoque la tristesse qu'une chanson qui évoque la joie, en tout cas pour vous.
Alors pour moi, c'est plus difficile d'évoquer une chanson qui évoque la joie que la tristesse. La musique en général triste ou nostalgique me touche plus facilement que la musique joyeuse. C'est d'ailleurs la même chose en ce qui concerne le cinéma. Mais il paraît que c'est de toute façon plus simple hein, de faire pleurer que rire.
Paraît-il.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est une vieille chanson qui s'appelle L'écharpe de Maurice Fanon, qui est une chanson que j'ai découverte encore une fois grâce à mon frère, ouais. Et que je trouve particulièrement touchante et qui moi, voilà, met forcément dans un état de tristesse parce que le sujet évoqué est d'une immense tristesse.
Savez-vous que Maurice Fanon, finalement, il est du même sérail que vous parce qu'il a commencé comme prof.
Ah, je l'ignorais.
Il a été prof d'anglais à Vitry-sur-Seine, puis à Buffon, au lycée Buffon de Paris. Et puis à partir de 1956, il a écrit des chansons pour Isabelle Aubray, Mélina Mercouri, Francesca Solville, Jean Guidoni, Joie Dassin, Georges Moustaki et Pia Colombo, elle qui deviendra sa femme d'ailleurs. Il a écrit en une nuit, paraît-il, L'écharpe, juste après son divorce d'avec Pia Colombo. En réalité, il avait ébauché cette chanson quelque temps avant, il pensait la donner à Pia Colombo, l'offrir. Et puis, avec ce titre, il a remporté quand même le prix de l'Académie Charles Cros. Quelques semaines plus tard, son ex-épouse, celle qui demeurera à jamais son égérie, a repris cette chanson. Bon, finalement, c'est une réconciliation, tiens, je vous ai dit, sur fond musical et sur fond de chanson. La chanson a été également interprétée par Catherine Sauvage, par Cora Boker, par Félix Leclerc ou encore par Hervé Villard. Et ça, on le sait peut-être un peu moins. On entre ici dans l'univers des chansonniers, dans le monde de la chanson à texte, comme on dit. Et c'est pour moi l'occasion d'un salut amical à Christian Kamerlin, lui qui nous a enchantés lorsqu'il a été, il y a quelques mois déjà, l'invité de l'émission qui, aujourd'hui, nous permet de rencontrer Mathieu Bujon. Ce Christian, comme Maurice Fanon d'ailleurs, il a connu les cabarets de la capitale, ceux de la rive gauche, la méthode, chez Patachou, l'école buissonnière, la colombe et le port du salut. Juliette Gréco est au nombre des interprètes qui ont chanté des œuvres de Maurice Fanon. Elle lui a même consacré un album complet, un 33 tours, hein, comme on disait, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Ça vous parle forcément, Mathieu, ne serait-ce qu'à travers le souvenir de vos grands-parents et de ce que votre grand-mère vous faisait entendre. Avec de nombreux autres artistes, Juliette Gréco était présente à l'enterrement de Maurice Fanon et on lui a demandé « Madame, pourquoi selon vous Maurice Fanon était-il moins célèbre dans son pays qu'au pays du soleil levant ?» Et Juliette Gréco a une réponse que je trouve extraordinaire. Elle s'est tournée un peu abruptement vers les journalistes en disant « Qu'avez-vous fait, vous, les journalistes, pour qu'il n'en soit pas ainsi ?» Si on parlait un peu du rapport entre l'art et le journalisme et la presse en général, amis, ennemis, pour vous Mathieu, est-ce que l'un peut faire ou défaire quelque chose pour l'autre ?
Oui, alors c'est un sujet alors qui pour le coup me touche beaucoup, y compris professionnellement, mais les médias jouent un rôle aujourd'hui immense, d'autant plus immense que les réseaux sociaux peuvent faire passer des informations non vérifiées, non contrôlées, donc ils ont un rôle de régulation de tout ça. Donc voilà, je suis parfois un peu fâché de voir certains médias qui jouent le jeu d'une information qui n'est plus toujours à la hauteur ou du contrôle. Dans une société d'immédiateté où il faut que l'information soit donnée immédiatement, et je pense qu'ils ont vraiment un rôle immense à jouer sur ce que deviendra notre société au sens très large, que ce soit sur le plan de la culture, mais que ce soit aussi de façon beaucoup plus large le fonctionnement de notre société.
À bon entendeur. Salut. Qu'est-ce qui peut vous mettre en colère, Mathieu ? Alors peut-être parfois les journalistes, mais plus largement ou autrement dans un autre domaine, je ne sais pas.
On va dire que de façon très peu originale, l'injustice, c'est vraiment sans doute le sentiment qui est le plus difficile.
Vous avez trouvé une chanson pour illustrer ça ?
Alors l'injustice peut-être pas, mais la colère, quoi de mieux que Rage Against the Machine, évidemment, du groupe avec Killing in the Name, ouais. Qui pour moi est très très symbolique de la colère.
Je veux dire que c'est une protest song quelque part.
Oui, exactement, ouais. Et puis rien que dans l'écriture. Au-delà même du texte, si là on ne ressent pas la colère, ouais. Alors c'est qu'il nous manque des capteurs.
C'est un cri de ralliement, oserais-je dire, pour tous ceux qui ont été opprimés et dont l'humanité a été niée, voire spoliée, c'est ça ?
C'est ça. Et par ailleurs, on écoutait la chanson de mon fils tout à l'heure, Cadet, ouais. Avant les compétitions. C'était une chanson que j'écoutais énormément, moi, avant mes compétitions de kayak quand j'étais jeune.
Vous voyez, comme quoi, ça se reproduit. Peut-être que votre papa, il écoutait quelque chose en particulier avant une prestation. Vous lui demanderez de ma part pour savoir s'il y a une succession aussi consciente ou pas. Au final, cette chanson, je crois qu'elle envoie un message. Et le message, c'est quoi qu'on vous dise, vous avez le pouvoir de résister aux forces oppressives et de lutter pour la justice. Ça marche comme message, ça ?
Parfait.
Allez, c'est Killing in the Names, c'est Rage Against Machine, maintenant. Mathieu, si je vous dis que la musique, c'est aussi le partage et la rencontre, vous êtes d'accord ?
Alors, évidemment.
Quelle chanson, ou quel air, ou quel air instrumental pourrait illustrer le partage, la rencontre ? Quel type de musique ? Je ne sais pas, dites-nous.
Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'opéra, parce qu'on a beaucoup parlé opéra, évidemment, il n'y a pas plus populaire que l'opéra. Et pour revenir sur le milieu scolaire, lorsqu'on intervient, lorsqu'on fait découvrir à des enfants l'opéra, dans la cour, d'école, les enfants chantent de l'opéra avant que l'adolescence intervienne et que certains freins sociaux leur disent « Ah, l'opéra, finalement, c'est pas bien, c'est réservé, etc. » Et moi, j'ai le souvenir d'enfants qui chantaient l'air de Carmen, du Toréador, dans la cour, ravis de chanter cet air. Et je trouve que c'est un air très, très symbolique de l'opéra populaire, facile à écouter et qui, finalement, peut relier des personnes de tout horizon, parce que des grands spécialistes lyriques vous diront que Carmen est un des plus beaux opéras du monde. Et puis en même temps, des gens qui ne connaissent absolument pas l'opéra vont pouvoir immédiatement rechanter, retenir ces airs qui sont très très faciles.
C'est tout le génie des compositeurs, en tout cas Bizet en particulier, évidemment. Et pourtant, il faut savoir qu'il n'est jamais en Espagne. Il parle de Carmen, il écrit Carmen, mais il ne connaît pas l'Espagne du tout, que dans la représentation, dans ce qu'on lui en a dit. Et quand on le voit à Sanxet ou ailleurs, on est en Espagne tout de suite. Quoi. C'est assez sidérant. C'est la magie de la musique, de la composition, et le savoir et le savoir-faire. Alors bon, un opéra, un seul, on peut retenir Carmen, il paraît que c'est celui qui est le plus joué au monde actuellement, et la version que j'ai retenue, c'est celle de Teddy Tahu Rod. C'est un chanteur néo-zélandais. Un jour, il a travaillé avec une mezzo-soprano lettone, Elina Garancia, avec le ténor franco-italien Roberto Alagna et la soprano italienne Barbara Frittoli au Met de New York. Et voici ce que ça a pu donner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le tempo est un petit peu inhabituel dans cette interprétation-là.
Señor, señor, para mí que le solda. Viva el torero, que es santa. Por plaisir, por plaisir, il santa e cobra. Le sir, que Toreador, togarde, toreador, toreador. Mi songe en combattant, elle est noire, je le garde, et que l'amour t'attend, toreador.
Un tempo un peu plus enlevé dans ce passage-là, dans ces quelques mesures. Moi, je trouve que c'est agréable à entendre aussi, c'est surprenant, c'est inhabituel. Alors, ça me permet de vous poser la question, Mathieu, du tempo, est-ce qu'il doit être figé d'une interprétation à l'autre, ou est-ce qu'on peut le modifier, et pourquoi ça arrive? C'est le choix de qui?
Alors, heureusement, les tempi peuvent varier selon les chefs. Chaque chef d'orchestre a sa vision de l'opéra. Et c'est vrai que ça donne parfois, là encore, les interprétations et les tempi peuvent totalement changer le message même, presque, d'un opéra. Je prends l'exemple de Nabucco que nous avons joué cet été. Des tempi plus lents, parfois, peuvent rendre un peu moins guerrier certaines partitions, alors que si on le joue très rapidement, de façon très saccadée, ça va accentuer cet aspect guerrier des choses. Donc évidemment que ça peut évoluer. Puis après il y a ce qu'on appelle le rubato qui se prête plus à certains styles.
C'est une liberté ça.
Exactement.
Rubato. Liberté dans le tempo. Justement.
Dans le tempo. Et on peut. D'ailleurs c'est un petit peu le cas là. C'est-à-dire qu'il commence plutôt sur un tempo classique.
Habituel. Oui.
Puis il accélère au moment du refrain.
Alors Mathieu, vous êtes baryton basse, vous c'est ça?
Oui.
Vous êtes essayé cet air là?
Alors oui, mais c'est très... Alors oui, malheureusement, de façon peu brillante, parce que c'est un air très difficile à chanter. Ouais, très, très difficile.
Ça a l'air comme ça, facile, mais finalement, j'ose vous demander trois notes.
bon.
Oh, non, non, non.
Toreador, on garde, toreador, toreador. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend. Toreador, l'amour, l'amour t'attend.
Hey Mathieu, l'amour t'attend, l'amour vous attend.
Un moment avec, c'est sur RDC.
Voilà, auditrice, auditeur, vous venez d'entendre un baryton basse. Hein, et on n'a pas toujours l'occasion d'entendre. Ah oui, mais quand même. Mais bravo, vraiment. Et merci d'avoir osé, parce que c'est pas évident. C'était pas préparé, hein, c'était pas prévu, en tout cas, c'était pas annoncé. Ça lui est tombé dessus comme ça, il a dit j'y vais. Bravo Mathieu, et merci.
J'ai triché, j'ai pris au moins un ton et demi en dessous. Hein.
Oui, mais bon, et pourquoi pas, baryton basse, donc on peut descendre. C'est le moment de la réponse au jeu. La chanson cachée, Mathieu, j'ai vous demandé la réponse, c'était quelle chanson ?
C'était Mistral gagnant et je suis vraiment désolé d'avoir dévoilé le titre. Mais en même temps, si j'ai pu aider un auditeur, tant mieux.
Vous avez peut-être aidé le gagnant. On a un gagnant. Il s'appelle comment ?
Alors, il s'appelle Gérard de Jonzac.
Ah, il habite à Jonzac. Eh bien, Gérard, c'est vous qui avez gagné un CD ou un DVD et une invitation à participer à une prochaine émission de la série Un moment avec sur RDC 93.4 et 92.5. La réponse était Mistral gagnant de Renaud. En tout cas, l'interprétation la plus connue, c'est celle de Renaud. Et c'est donc Gérard. Bravo, merci. Merci aussi à tous ceux qui ont, et à toutes celles qui ont gagné, qui ont participé. Et on va dire qu'ils ou elles gagneront peut-être la prochaine fois. Le CD parviendra dans quelques temps. Et puis nous pourrons fixer une date pour l'invitation de Gérard à assister à une émission. Alors Mistral gagnant, le titre, ça vient du nom d'une ancienne confiserie, le Mistral gagnant, vous avez connu ça vous ?
Non, mais je sais que mes parents l'ont évidemment connu, ce caramel mou au beurre salé, délicieux paraît-il.
Ouais, c'est une chanson dans laquelle Renaud parle de ses souvenirs et des bonbons de son enfance. Et la chanson est largement imprégnée d'une mélancolie du chanteur, exprimée au travers des souvenirs de bonbons aujourd'hui disparus, comme le temps qu'on ne peut pas récupérer. Les bonbons, alors vous ne l'avez peut-être pas goûté, Mathieu, mais il y avait le Mistral gagnant, il y avait le Coco Boer, il y avait le Roudoudou, il y avait le Caronsac, il y avait le Minto. Et Renaud a dédié sa chanson à sa fille, Lolita. Il raconte que cette chanson ne devait pas figurer sur un album, car il pensait qu'elle était bien trop personnelle et qu'elle n'intéresserait pas grand monde. Elle a été écrite un soir, paraît-il en une demi-heure, dans un coin d'un studio à Los Angeles, où il était en train de travailler pour un album. Mais il n'avait pas encore la chanson titre. Il appelle sa femme, Dominique, il lui chante cette chanson-là qu'il vient d'écrire au téléphone, Mistral gagnant. Et après l'avoir entendue, elle lui dit « Si tu ne l'enregistres pas, je te quitte ». Oh, c'est terrible ça, non ? Et selon un sondage BVA, ben, ils sont toujours ensemble. Hein. Mistral gagnant sera désigné chanson préférée des Français. On ne compte pas les reprises, je vais quand même en évoquer une. Celle du duo Note de cœur, dans laquelle chante Alex, qui fut une brillante invitée d'une émission passée de la série Donnez-nous vos notes, l'autre émission que j'ai le plaisir d'animer sur RDC. Mathieu, c'est le moment des portraits. Et alors, on pourrait écouter peut-être quelques notes de Mistral gagnant, et ensuite, on cherchera quelle personne a donné quelle chanson pour parler de vous. Mistral gagnant.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc. Et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. La terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière.
Voilà, donc encore bravo et merci à tous ceux qui, toutes celles qui ont participé. Et un merci, un bravo particulier à Gérard de Jonzac. Donc les portraits. Mathieu, je vous ai demandé de m'indiquer quelle personne pourrait dresser un portrait à travers une chanson, un extrait musical de la personne que vous êtes. Vous m'avez parlé de Sarah, vous m'avez indiqué orienté vers Sarah. Sarah Wessé, votre épouse, chanteuse donc, hein, et puis maintenant reconvertie dans le grand monde de l'enseignement, dans la grande famille de l'enseignement. Alors, je l'ai contactée, elle a joué le jeu, et voici ce qu'elle écrit. J'ai choisi Papa de Big Flo et Oli. Cette chanson est associée à la relation de Mathieu à son père. Il voue une grande adoration à son père, il a toujours cherché à le rendre fier de son fils. Depuis toujours, il a eu à cœur de lui prouver qu'il était capable. Durant toute son enfance, Mathieu suivait son père pour bricoler, et c'est le cas encore aujourd'hui, ils adorent bricoler ensemble. Dans une maison, ils savent tout faire, de la maçonnerie à la plomberie et tout le reste. C'est signé Sarah. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu, comme ça, à brûle pour point?
Eh bien, c'est émouvant.
Oui.
Et c'est, ben c'est vrai, c'est très vrai. Voilà.
Alors, c'est difficile d'extraire quelques paroles de la chanson, mais je me lance et je m'essaie à l'exercice, puis vous me direz, et Sarah pourra me dire plus tard si elle est d'accord, je retiens deux passages. Les chansons à la guitare, les bisous avec la barbe.
Oui, oui.
C'est mon idole, avec lui rien n'est impossible.
Bah, totalement.
Ça marche aussi.
Bah, je la connais bien, mais toute la chanson marche.
Alors, quand on l'appelle le père, le vieux, le dab, le daron, un père, c'est toujours un papa. C'est un papa pour toujours. Vous êtes d'accord, Mathieu?
Ok, oui.
Alors, creusons un peu la question. C'est donc une œuvre de Big Flo et Oli en hommage à leur père. Dans Papa, on l'entend, ce père, ce Fabian, il chante.
Oui.
Il est chanteur et il chante avec eux. Il est originaire d'Argentine, il en profite pour chanter dans sa langue maternelle, l'argentin, l'espagnol. Et je me permets par extension de dire que l'hommage est pour tous les pères. Et Papa, ça sonne pour moi comme un hymne à l'amour filial et paternel. Ça se veut universel dans le message. A noter que dans le début du second couplet, on entend la même structure que celle utilisée par Diams dans sa chanson Daddy, sur le même thème finalement. Bon, je me permets un nouvel emprunt aux paroles de Papa, Mathieu. Il n'y a pas de bon père, il n'y a que des hommes qui font de leur mieux. Vous êtes d'accord?
Ah oui, tellement. Et moi, je cite Oscar Wilde qui dit on commence par adorer nos parents, puis on les juge, parfois on leur pardonne. En l'occurrence, le jugement a duré peu de temps et il n'y a pas de pardon à donner, mais je trouve cette citation magnifique.
Je suis d'accord et je souscris plus que ça. En tout cas, que ce soit la citation ou la chanson, moi je pense que en choisissant de partager une histoire personnelle, Oscar Wilde ou Big Flo, il touche à l'universalité finalement. Vous êtes d'accord, Mathieu?
Ah, tout à fait. Et autant tout à l'heure c'était un plaisir coupable, très organisé, autant cette chanson, franchement je trouve ces artistes admirables. Ils ont fait et vraiment écrit des textes magnifiques. Alors certes, c'est sous un style moderne, le rap, mais très honnêtement, c'est des artistes vraiment de grand talent.
Alors merci à Sarah de son choix, parce que je crois qu'elle a visé juste, et bravo. C'est un regard sur le lien très fort qui vous unit, Mathieu, votre père et vous, c'est ça? Encore merci à elle, à Sarah, car elle... Alors, elle l'a peut-être pas, elle vous l'a peut-être pas dit, mais à moi, oui. Elle a dit que vous aimiez bricoler avec votre papa. Elle est d'accord pour que, bricoleur expert que vous êtes, vous restiez quelque temps à mon domicile. deux ou trois semaines, pas plus, hein, dès l'issue de l'émission. Et puis on verra par la suite quand vous pourrez revenir pour continuer à exprimer vos talents de chanteur et de bricoleur. Salut, c'est Steph. Un moment avec. La chanson suivante, alors vous ne savez pas, Mathieu, c'est la surprise. J'ai décidé, moi, de vous offrir une chanson. Ben, on va l'écouter tout de suite et puis on va voir si vous reconnaissez et ce que vous pouvez en dire. C'est maintenant, c'est la chanson surprise. La voilà, la surprise tarde à venir.
Personne ! Oh, qui a que me tirera de ma prison ? C'est elle. Quelle est belle.
Alors dites-moi Mathieu, vous avez reconnu au bout de quelques temps, qu'est-ce que c'est donc?
Alors ça c'est pas très gentil. Hein.
Oh, vous avez, que vous dites.
Vous avez une section investigation qui est très sérieuse. Alors, bien écoutez, c'est, je crois en tout cas, mais c'est le duo de la mouche.
Oui, ben oui.
Voilà, Dorfos en Fèvre, et je crois reconnaître une version. Voilà, j'avais eu la chance de chanter dans cette production avec ma femme, et nous avions fait ce duo complètement déjanté. Voilà, extrêmement drôle de surcroît, et voilà, c'est un excellent souvenir. Et alors franchement, vous me direz après l'antenne comment est-ce que vous avez déniché la chose. Parce que c'est
les secrets d'animateur radio ne se livrent pas. En tout cas, c'est février 2012, c'était il y a quelques temps déjà, c'est à Noyers-Maupertuis. C'est la direction artistique d'un certain Christophe Blujon, vous le connaissez cet homme-là?
Un peu, je le découvre. Ouais,
une direction musicale à l'époque de Claire-Marie Millet, Mille, je ne sais pas comment on Mille. Dit. Mise en scène d'Yves Poudret, puis il y avait Eurydice, Sarah, VC, Orphée, Dominique Desmond, Pluton, Moglilaps et Jupiter, Mathieu Blujon. Alors, le duo de la mouche, qu'est-ce que c'est? C'est Jupiter qui est déguisé en mouche pour séduire la femme d'un autre.
Exactement.
Et cette femme-là, c'est Sarah. C'est quelqu'un que vous aviez envie de séduire?
Ben, il faut croire. Mais pour la petite anecdote, je l'ai rencontrée lorsqu'elle interprétait Frasquita dans Carmen en 2001. Et j'étais à ce moment-là, moi, dans les chœurs de l'opéra. Et donc, il faut croire que je suis tombé amoureux régulièrement de ses rôles.
Et peut-être, et plus affinité, alors on va dire.
C'est exactement.
Ça c'était en 2001 hein, que Sarah était... pour la première fois invité au Festival des Soirées Lyriques de Zanxé. Vous voyez, je sais presque tout. C'est incroyable. Et puis, il paraît, d'après Sarah, que c'est assez fréquent que vous lui parliez de ce moment où, pendant l'ère du trio des cartes, Sarah et vous étiez sur scène, vous dans les chœurs, je crois, mais très près d'elle. Et peut-être que vous ressentiez déjà quelque chose de particulier dans sa proximité, c'est ça?
Oui, non, mais c'est vrai que il faut le vivre, d'entendre une, en fait, la voix, l'instrument de la voix, c'est quand même un instrument très particulier, ça révèle qui on est, ça, et entendre la vibration d'une artiste qu'on admire de surcroît très belle, puisque, voilà.
J'espère que Sarah est à l'écoute. Ah,
voilà, je suis convaincu que ma femme est la plus belle femme du monde, mais, et c'est vrai que c'était un moment extrêmement fort, et vraiment, c'était, ça, je ne suis pas prêt de l'oublier. J'étais dans un sac de jute en patate dans la mise en scène et j'espérais qu'une chose, c'était d'être soldat pour pouvoir être un petit peu plus, quand même, comment dire...
soldat.
Voilà, le fier soldat. Le fier soldat, mais pas de chance, non.
En tout cas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Mathieu, l'opéra est un fabuleux vecteur de rencontre, de partage et plus si affinité, finalement. Est-ce que vous, Mathieu, vous pourriez donner le titre de quelque chose, une chanson, un air qui, pour vous, en tout cas, peut vous décrire, parler de vous?
Alors, je vous propose Bohemian Rhapsody. Alors, peut-être moins pour la thématique de la chanson que la façon dont Bohemian Rhapsody est écrite, parce que Bohemian Rhapsody, c'est Freddie Mercury, une voix incroyable, très lyrique, d'ailleurs. C'est une chanson, donc c'est de la variette, et en même temps, la fin est très lyrique dans son écriture. On pourrait presque entendre du Verdi avec une scène très 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 opératique dans sa construction. Et puis Freddie Mercury, c'est pareil, c'était quelqu'un qui était à la fois quelqu'un d'extrêmement joyeux, en même temps très nostalgique, parfois très triste, et je me sens un peu tout ça à la fois, et je me suis dit, cette chanson, finalement, c'est un peu la vie de beaucoup de gens, mais avec des moments d'exaltation, des moments de grande tristesse, et puis encore une fois, avec une admiration pour sa voix. Donc j'ai choisi cette chanson.
Il a chanté d'ailleurs avec des artistes lyriques.
Oui, bien sûr, Monsieur Cavalier, bien sûr, son dernier album.
Par exemple, et c'était assez... prenant, étonnant, surprenant, tout ça à la fois. Bohémien de Rhapsody, vous avez un côté bohème alors, bohémien ?
Sans doute. sans doute, on est parti sans être un peu bohème.
Et un côté rhapsodique aussi, peut-être. En tout cas, c'est maintenant, c'est le choix de Mathieu pour se décrire lui-même.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro,
Magnifico!
Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me.
Moi, je trouve que, je vous connais un petit peu, Mathieu, on va le dire, je trouve que ça parle assez bien de vous et de vos différentes facettes. Tiens, je vais dire comme ça, je ne sais pas si Sarah sera d'accord, si Lilian sera d'accord, et si les parents, le père dont on parlait tout à l'heure, le frangin, tiens, seront d'accord, ils pourront vous le dire et vous me rapporterez leur réponse, s'il vous plaît. L'invité a parlé de lui, mais l'invité, c'est quelqu'un qui peut faire aussi des cadeaux. En tout cas, c'est le principe de l'émission. Je voudrais, s'il vous plaît, Mathieu, que vous reteniez une chanson à offrir à qui vous voudrez, que vous citez ou pas. C'est votre affaire.
Alors, sans citer son nom, je dirais juste que c'est un cousin germain dont je suis très proche et qui a fait le choix de partir vivre très loin. Et donc, la chanson que j'ai retenue, c'est « Puisque tu pars » de Jean-Jacques Goldman, qui est une très belle chanson.
Je crois que... Il y a plusieurs personnes qui ont parlé de cette chanson et j'ai retenu les paroles d'un auditeur encore qui dit « Cette force de penser que le meilleur reste à venir », des paroles qui peuvent être situées dans différents contextes, décès, rupture, éloignement, mais il nous reste toujours, comme le dit Jean-Jacques, cette force de penser que le meilleur reste à venir. Le meilleur, c'est demain, pour tout le monde, pour toi, pour moi, pour l'autre, pour nous. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, nous avons besoin de cette force, car oui, le meilleur reste à venir. Merci Jean-Jacques pour vos chansons magnifiques, dont celle-ci. Je crois que les mots sont très forts, mais très vrais par rapport à ce que vous décrivez. Cette chanson, selon Goldman lui-même, elle traite du départ, de la séparation, et puis de tout ce que cela implique. Et finalement, ça va aller mieux, puis c'est pas parce qu'on est loin des yeux qu'on est loin du cœur. Vous le rappeliez tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, le cousin Germain, c'est pour vous, c'est pour toi. Donc, je ne sais pas comment je peux dire, en tout cas, c'est de tout cœur, j'en suis sûr. Puisque tu pars, c'est Goldman, c'est maintenant.
Puisque l'on regarde, puisqu'il n'est pas même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars.
Je suis sûr que ce cadeau sera formidablement reçu parce que avec ce que nous venons d'entendre, c'est vraiment l'émotion, c'est très fort. Merci pour lui, voilà. S'il vous plaît Mathieu, un autre cadeau. Ah ouais, je ne vous passe rien, un cadeau cette fois à offrir à toutes les auditrices et tous les auditeurs de RDC, en particulier de l'émission Un moment avec 93.4, 92.5. Alors, quel est le cadeau que vous pourriez offrir à tout le monde?
Écoutez, je me suis dit que dans le contexte dans lequel nous sommes, peut-être que Le plus beau message, c'est celui peut-être de Brel avec « Quand on n'a que l'amour ». Là encore, c'est une chanson qui passera sans nul doute beaucoup, beaucoup de siècles, je pense, parce que le message est complètement universel, indémodable. L'interprétation, la sienne, restera, à mon sens, inégalée, inégalable, mais pour autant, elle a été reprise, là encore, des tonnes de fois, et pour cause. Quelle chanson sublime. Donc voilà, j'ai décidé de choisir ce titre.
Est-ce que je pourrais dire que c'est l'hymne à l'amour ?
C'est l'hymne à l'amour, c'est vrai, c'est la thématique en tout cas est la même.
C'est l'amour qui donne c'est une force qui transforme l'ordinaire en extraordinaire finalement, apportant chaleur, lumière à la laideur et à l'obscurité du monde. Seul, l'amour peut donner un sens à la vie, l'amour peut être un bouclier contre les difficultés de l'existence, du quotidien. L'amour, c'est un moyen de se connecter avec les autres aussi. Pas forcément l'amour charnel, hein, l'amour en général, aimer l'autre, apprécier l'autre. L'amour a le pouvoir de vaincre les divisions, c'est une évidence, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. L'amour, c'est un langage commun qui peut toucher tous les cœurs, il agit comme une force unificatrice. Attention Mathieu, on va faire un duo là. La conclusion, c'est nous deux ensemble. Vous êtes prêts? Alors, sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis,
le monde entier.
Voilà, je vais pouvoir écrire sur mon CV que j'ai exécuté, si je peux dire, un duo aujourd'hui avec Mathieu Lujon. En tout cas, voici la version unanimement connue et reconnue. Quand on n'a que l'amour.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles, découvrir le soleil, la laideur
des... Merci Mathieu, quel message pour l'auditrice et l'auditeur, quel cadeau. Et je gage que auditrice et auditeur en seront ravis, enchantés, oserais-je dire. Avant de partir, pour ne rien oublier, je voudrais vous demander quelle est la chanson, quelle est l'air de musique à ne pas oublier, celui que vous allez nous indiquer maintenant pour tout à l'heure dans la voiture quand vous rentrerez dans votre Charente-Maritime ou ailleurs, je ne sais pas, je ne veux pas être indiscret, mais vous ne puissiez pas vous dire tiens, j'aurais dû parler de cette chanson, de cet air. Bref, qu'est-ce que c'est qui, pour vous, aujourd'hui, 4 septembre, ne peut pas être oublié?
Alors, j'ai choisi un nocturne de Chopin. Je me dis toujours que quand je peux écouter un titre 20 fois d'affilée sans m'enlacer, pendant 40 ans sans m'enlacer, c'est probablement que c'est quelque chose de très 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 bien écrit. Et en fait, voilà, j'aime énormément Chopin, j'aime énormément le piano comme instrument, mais ce nocturne-là en particulier, je trouvais juste tout simplement magnifique. Donc ça aurait été vraiment dommage de ne pas l'entendre.
Alors moi je pense que Chopin, il est dans mon panthéon, on parlait du panthéon tout à l'heure, des musiciens, dans le vôtre aussi peut-être.
Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire.
Merci Mathieu, je m'éprime de vous adresser ce merci en mon nom propre, mais aussi de la part de toutes les auditrices et tous les auditeurs qui seront évidemment d'accord avec moi. Merci mille fois. L'interprète que nous allons entendre, deux mots quand même, c'est Menahem Pressler, c'est un pianiste allemand de renommée mondiale, et il offrait encore son interprétation, celle que nous allons entendre, alors qu'il avait passé les 90 printemps. Une vie consacrée à l'art, encore une. L'art permet sans doute de mieux vivre et de vivre plus longtemps. D'ac ou pas d'ac?
Alors complètement d'accord, nous n'en avions absolument pas parlé, mais sachez que c'est une version que j'adore, qui est extrêmement belle et touchante. Et c'est une version que vos auditeurs pourront regarder parce qu'elle est filmée, et voir ses mains à son âge C'est fabuleux, c'est fabuleux.
Alors là, on va pas pouvoir voir, mais on va pouvoir entendre le résultat. C'est Nocturne en Do dièse, je crois, de Chopin, et c'est maintenant. Presque. La chose est sûre, après avoir entendu ça, Mathieu, l'art permet de mieux vivre. Et je l'espère aussi plus longtemps pour pouvoir en profiter encore, toujours et davantage. Merci, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ce moment.
C'est le message que vous vouliez faire passer, je crois, à travers vos choix musicaux dans cette belle émission, j'ai osé le dire. Si elle fut belle, je crois que les auditrices partageront mon point de vue. C'est d'abord grâce à vous, Mathieu, c'est grâce à vos choix musicaux, c'est grâce aux explications de ces choix, grâce aux anecdotes que vous nous avez livrées au moment de votre parcours de vie que vous nous avez confié. C'est grâce aussi à Sarah, que je veux remercier pour la pertinence de son choix. Sarah, vous avez visé juste. Et puis un salut amical à Gérard de Jonzac, notre gagnant du jour. Merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont participé. Auditrices, auditeurs, nous venons de passer un moment avec Mathieu Blujon. Et ce fut, je le pense, et vous aussi, je l'espère, un très agréable moment. Oui, Mathieu, c'est déjà la fin. Merci à vous.
Merci à vous, Stéphane.
Merci beaucoup, Mathieu. Merci de votre venue. Merci d'avoir totalement adhéré au principe de l'émission que j'ai le plaisir d'animer. Dites-nous ce que vous écoutez, vous nous direz qui vous êtes, c'est ça un peu le principe de l'émission. Merci d'avoir joué le jeu, Mathieu, parce que c'est peut-être pas aussi évident qu'il y paraît.
Non, c'est pas du tout évident, et je m'attendais pas à ce que Stéphane Bruny soit en fait une sorte de Mireille Dumas qui permette à ses invités de se dévoiler autant, et c'est vrai que ça a été pour moi un exercice dans la préparation des titres. C'est un travail d'introversion très très particulier à faire, très enrichissant et très agréable, et merci pour ça aussi.
Damned, je suis fait. En tout cas, j'espère, Mathieu, que vous avez passé un bon moment avec les auditrices et les auditeurs de RDC, et je ne doute pas, encore une fois, que celle-ci et ceci aient apprécié vos choix de chansons ou de musique instrumentale pour illustrer votre vie, pour nous avoir fait découvrir qui vous étiez et pour nous parler de vous. À vous qui nous écoutez, auditrices, auditeurs, merci. Merci de votre attention, de votre fidélité. Merci des témoignages adressés à RDC qui expriment une satisfaction à suivre l'émission un moment avec. Je ne veux pas oublier de remercier Jean-Marc pour le savoir-faire technique qu'il déploie, gage de confort de réception pour les auditrices, auditeurs et soutien sans faille à la conduite d'émission pour l'animateur que je suis. C'est grâce à Jean-Marc que le podcast de l'émission de ce jour sera disponible dès que possible sur le site de RDC. Un moment avec, aujourd'hui, c'était avec Mathieu Blujon qui nous a régalé de ses choix musicaux et des anecdotes qui y sont attachées. En octobre, le mois prochain, c'est Michel Bocage-Marchand qui sera l'invité. Qui est-il, que fait-il en chanson, avec les chansons de son choix. Il nous dirait tout de son parcours, ou presque, le jeudi 9 octobre 2025, à partir de 10h15. Le moment sera sans doute du plus agréable, comme celui que nous venons de vivre grâce à Mathieu Blujon, avec Mathieu Blujon, ce moment que nous venons de partager avec Mathieu. Au revoir, Mathieu.
Au revoir, Stéphane, et encore merci.
Merci à vous. Au revoir, Jean-Marc. Encore merci de ton soutien. Auditrices, auditeurs, au revoir. À bientôt. D'ici là, belle écoute de RDC 93.4, 92.5 pour Sainte et sa région. Jean-Marc, tu peux envoyer le générique, car tu sais quoi, un moment avec, sur RDC, pour aujourd'hui, c'est la fin. Un moment avec, c'est fini. Un moment avec, c'est déjà fini. Merci beaucoup à l'invité du jour pour sa participation à cette émission diffusée sur l'antenne de RDC 93.4 et 92.5. Merci à l'invité de cette rencontre, merci de la richesse des échanges et au plaisir d'une prochaine fois. Qui sait ? Un moment avec, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui, car rendez-vous est pris avec Stéphane. Rendez-vous est pris pour un nouveau moment avec. Avec qui ? Quel invité ? Surprise ! Salut, c'était Steph. À bientôt pour Un moment avec. Je vous retrouverai avec plaisir sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5. C'est grâce à la technique déployée par Jean-Marc, merci à lui, que je vous retrouverai avec grand plaisir. Et n'oublions jamais avec Charles que... Salut, c'était Steph pour Un moment avec. Un moment avec, l'émission qui parle de vous, l'émission qui parle de vous en musique, l'émission qui parle de vous en musique et en chanson. Merci à vous, chers auditeurs. Bravo et merci à celles et ceux qui ont participé au jeu. Félicitations aux vainqueurs. À bientôt. Le mot de la fin, laissons-le à Juliette.